Interview.
2 jours.
Vanessa Krolikowski, bonjour.
Bonjour.
Et Romuald Souris, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes présents aussi à Tous en Bottes aujourd'hui. Et vous avez votre stand, le Garage L, l'atelier du livre. Et donc, vous proposez de la création, de la restauration, du facsimilé, de la calligraphie, de la dorure et de la reliure, toutes les activités liées à l'édition livresque. Donc, c'est une passion qui vous est arrivée depuis combien de temps, ou du moins votre activité ?
Directement à Fort-Calquier, on y est depuis 15 ou 16 ans. Et avant ça, moi, ça remonte à l'adolescence. Je ne sais pas quand est-ce qu'on met une frontière. Donc c'est vieux. Et pour Vanessa, je pense aussi que ça remonte à loin. Hein. Donc non-stop, je dirais.
C'est l'amour de l'objet, du livre, qui vous attire aussi. Il y a une passion pour cet objet qui transmet un savoir, en quelque sorte.
Oui, l'objet, puis tout ce qu'il représente, savoir la transmission des savoirs depuis très 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 longtemps. Donc ce qu'on peut apprendre du passé et aussi ce qu'on va pouvoir laisser au futur. Conserver, créer ces livres et puis conserver ce qui existe déjà pour la postérité, pour les transmettre.
Alors je vois, vous êtes passé par l'école Estienne à Paris. Qu'est-ce qu'on y apprend d'ailleurs dans cette école en particulier ?
Alors l'école Estienne est l'école qui apprend sur tous les métiers des arts graphiques. Donc maintenant il y a aussi toutes les techniques d'impression, tout ce qui va être le graphisme. Et moi particulièrement, donc, j'ai fait un diplôme des métiers d'art axé sur la reliure et le décor du livre, donc la dorure. Il y avait aussi d'autres classes sur la gravure, la typographie, voilà, tout ce qui touche au métier du livre.
Pour vous, le livre est un objet universel, et est-ce qu'il tend encore à pouvoir se perpétuer face à ce contexte économique et même culturel, hein, où le numérique supplante de plus en plus le système de transmission?
Oui, je pense que le livre a encore un bel avenir. Et après, il y a différentes formes de consommation de l'écrit. On peut avoir des livres numériques pour se divertir. Après, pour tout ce qui va être la conservation, le papier, le support papier reste le plus pérenne. Tout ce qui est numérique dure pas forcément. Les logiciels changent, les lecteurs, les disquettes et tout ça, ça change très vite, alors que la version papier dure beaucoup plus longtemps.
Romuald, présenté comme artisan du patrimoine, alors ce patrimoine, c'est celui de la bibliothèque?
Oui, pas seulement. Ça, c'est un statut qui est donné par les musées. Ce que je fais, entre autres choses, des copies de documents ou d'œuvres d'art pour des musées ou des archives. Et du coup, c'est complexe, parce que c'est par rapport à la conservation-restauration qui est mon travail avec les archives. Mais quand on travaille pour les musées, il faut un autre statut. Donc moi, je m'occupe de ça, du facsimilé. Un peu comme on a pu le voir, c'est un peu le même travail, mais à une autre échelle, qu'à Chauvet, par exemple, où on va reconstituer des objets archéologiques pour la visite publique, mais en respectant les techniques et matériaux de l'époque. Donc ça, c'est le cœur du travail de l'atelier.
Alors vous parlez aussi de restauration. Donc on vous confie des livres également à restaurer, des livres de qualité, j'imagine, aussi.
Oui, il y a de tout. On travaille à la fois pour les particuliers comme pour les administrations, les institutions. Donc pour les particuliers, ça peut être du livre de bibliophilie, comme ça peut être aussi des livres de cuisine ou des livres qui vont avoir plus une valeur sentimentale qu'une valeur financière. Après, pour tout ce qui va être institution, ça va être des archives, des musées, voilà, tout ce qui est documents graphiques aussi. Donc c'est très varié.
Vanessa et Romuald, le garage, elle, on peut dire elle pour le livre, j'imagine. Pour vous, quelle était cette philosophie de proposer ce garage ?
Au garage, on a souhaité le laisser ouvert au public, déjà. Donc l'atelier est ouvert. Et il y a une large part qui est faite à la création. Donc nous, on travaille, mais on a aussi toute la partie créative avec des artistes qui viennent en résidence, un travail d'édition, des expositions, on a des petits concerts des fois. Et c'est un peu... On a repris un garage, hein, du coup, mais on a gardé le concept de mécanique du livre et rester dans la thermodynamique, sortir un peu du numérique. Ouais, c'est un petit peu l'idée.
Et il y a la création aussi. Quelle est votre part, vous, dans ce garage L? Qu'est-ce que vous amenez dans la création de ce qui est proposé?
Nous, on est déjà, on va dire, créateurs. On pratique. Moi, je fais énormément de dessins, d'illustrations, de la gravure, de la peinture. Donc on a un petit aspect didactique, on fait beaucoup d'ateliers, d'expositions, des choses pour apprendre aux gens. Et puis, comme je disais, on accueille des artistes, donc on essaye aussi de leur donner les outils pour créer des choses qui sont libérées des carcans d'un travail commercial où il faut rentabiliser le projet. Là, on est sur quelque chose d'autre, on est plus sur... l'expérimentation et c'est la bidouille, quoi, le tartouillage de couleurs et de papier. Après, nous, on a un savoir-faire technique qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, surtout qu'on a un fort ancrage dans l'autodidactisme et le fais-le toi-même, etc. Donc valoriser les matériaux recyclés, enfin, savoir exploiter quand on n'a pas grand-chose, arriver à faire des choses avec pas grand-chose. C'est un peu peut-être le résumé.
Qu'est-ce qui vous a réunis tous les deux à travailler ensemble sur ce garage? D'ailleurs, vous êtes au-delà de deux, même, il y a d'autres personnes aussi.
Avec nous autour, dans l'atelier, il n'y a que nous, mais autour de nous, on a un voisin qui est typographe, lithographe, qui lui fait ses livres aussi à sa façon. On a Éric Ferrier qui fait de la bande dessinée, qui est à Fort-Calquier aussi. Après, ça, c'est variable, il y a un couple d'amis qui est graphiste. On accueille beaucoup de stagiaires aussi, donc il y a des gens qui sont là pour quelques semaines, quelques mois. On travaille aussi avec d'autres éditeurs ou d'autres structures un peu comme nous, on va dire, à travers la France ou même l'Europe. Et du coup, ça permet aussi d'échanger, de diffuser les travaux, ce genre de trucs, quoi.
Il y a un circuit sur ce type de marché d'impression alternative ou d'expression alternative. Est-ce qu'en France, il y a un bon réseau, ou alors est-ce qu'il y a encore des choses à développer? Est-ce qu'il y a des pays qui sont peut-être plus performants, plus en avant aussi, culturellement, avec ce type d'édition?
Oui, alors c'est un vaste sujet. Disons que les arts graphiques sont toujours un outil de résistance dans certains pays. On pourrait dire, je sais pas, l'Amérique du Sud... ou même plus proche, en Espagne, en Italie, il y a énormément de créativité en Italie. Il y a beaucoup de... ça tourne autour des squats aussi, pas mal. Donc ça quand même assez proche des mouvements militants. En France, plus directement, bon, il y a un réseau, hein, il n'y a pas de doute, mais on est quand même beaucoup plus dans des écoles. Donc on sort plutôt avec les Beaux-Arts et choses comme ça. Donc les Beaux-Arts, à l'inverse, s'intéressent aux techniques qui sortent des caves. Et du coup, ils arrivent avec ces nouvelles méthodes ou ces façons de voir, mais toujours avec l'esprit Beaux-Arts. Donc il faut arriver un peu à concilier tout ça. Mais parfois, ça a tendance à se transformer en... ça monte vers le haut, quoi. On essaye toujours d'aller plus haut, rarement de rester là où on est.
Vous parliez donc de formation entre l'école Estienne et les Beaux-Arts. J'imagine qu'il y a une empreinte hein, qui vous est restée. Et donc vous ouvrez vos ateliers aussi à des artistes pour pouvoir les soutenir dans leur création et en leur proposant diverses techniques. Ces artistes sont de quelle renommée, par exemple ?
Quelle renommée
Est-ce que ce sont des artistes qui sont quand même connus dans le milieu de l'art ou alors c'est pareil aussi un univers plutôt en alternance
Disons qu'aujourd'hui le monde est vaste et que du coup les réseaux apparaissent vraiment dans les grands réseaux monstrueux de Walt Disney. On est tous sur des petits réseaux, des niches. Donc il y a des artistes qu'on accueille qui pour nous sont des idoles absolues, mais qui sont connus de personne. S'ils sortent dans la rue, personne ne va les reconnaître. Mais pour nous, c'est quand même des figures cultes parfois. Mais on a aussi des petits jeunes qui déboulent, même des collégiens des fois. Ce qui fait plaisir aussi parfois, c'est de voir des gens qui progressent, qu'on voit qui commencent timides, et puis petit à petit, on voit qu'ils ont monté une structure derrière ou qu'ils se font un petit nom. Ça arrive aussi là en rentrant plus dans la reliure où on a des travaux d'éditeurs ou de qui eux travaillent avec des artistes du coup dans des réseaux plus
officiels,
choses comme ça, comme avec Poincaré là, Point Cheval.
Abraham Point Cheval
par exemple. Mais nous c'est vraiment pas une préoccupation majeure cet aspect-là. On essaye de niveler par le bas et l'approche technique, quelle que soit la renommée ou l'expérience, en fait les Beaux-Arts sont une école d'art mais ne sont pas une école technique, et souvent ce qui leur manque c'est la technicité, quel que soit le niveau de renommée, etc. quoi. D'ailleurs même les très très grands artistes à l'échelle commerciale sont des intellectuels, ils ne mettent pas les mains dans la patouille. Hein. Ils ont des employés, ils ont des ouvriers.
Vous travaillez avec des dracs parfois aussi pour promouvoir le travail de certains artistes contemporains.
Il y avait eu le travail avec un projet avec Abraham Point Cheval justement qui était pris en charge et financé un projet avec le FRAC. Où là on nous avait demandé de mettre en forme un projet donc qu'avait eu Abraham sur un livre d'artiste avec des systèmes, des roues qui nous, phénakistiscope il me semble, un truc, oui. Enfin il y avait une roue, c'est un système de roues crantées qu'on fait tourner et qu'on regarde à travers la roue dans le miroir et donc ça crée du mouvement. Donc après une fois que l'artiste a eu l'idée, il faut arriver à le mettre en œuvre. Et c'est vrai que ça, c'est des projets qui sont très intéressants parce que y a un contenu derrière. On est à la fois au service et puis on essaye d'avoir des idées. Ça fait évoluer chacun de son côté et au niveau du défi technique. Et c'est toujours intéressant d'arriver à trouver les solutions.
Je pensais, vous parlez de patrimoine, quand vous parlez de ces techniques d'animation ancestrales hein, du 19e, fin 19e siècle, est-ce que vous vous tenez à jour aussi et peut-être vous documenter sur l'histoire du graphisme, de ces modes d'expression est-ce que vous avez cet aspect aussi de recherche?
Oui, absolument, on n'est pas dans le... Enfin, nous, on navigue entre le très ancien et ce qui se fait maintenant. On n'a pas de frontières technologiques, ou je ne sais pas. Moi, ça m'arrive de participer à des projets complètement numériques, par exemple. Après, c'est quand même on est plutôt sur l'émancipation. Donc, le fait d'être astreint à une machine, c'est quand même un peu l'opposé. Donc, c'est intéressant. C'est bien de rentrer dedans, c'est bien de voir ce qui s'y passe. Mais ce qui est bien surtout, c'est les gens qui arrivent à les détourner et à en faire quelque chose. Justement, quand on se rend sur des salons comme à Rome, là, un très gros salon, on est 400 invités, il y a des tas de gens qui travaillent sur des trucs ultra modernes, mais avec un détournement du concept de base, et ça c'est assez rigolo. On arrive toujours à détourner, mais comme ces technologies-là vont très vite, le détournement aussi il va très vite. Donc c'est des choses qui vont, qui viennent, et au final reste, je sais pas, si on prend le street art, qui est une expression contemporaine, finalement il n'y a pas eu énormément de progrès en termes techniques, je parle. C'est, on en est toujours un peu gribouillis sur les murs, en gros.
Ça reste très artisanal.
Oui, c'est ça. C'est que ce qui compte au final. Nous, en tant que restaurateurs, ça nous arrive de travailler sur de l'art contemporain. Et on se rend compte des difficultés qui augmentent en fait avec l'ère industrielle. Plus on se rapproche de notre époque, plus c'est difficile. Les œuvres ne sont pas pensées techniquement ou matériellement. Et donc non seulement l'ouvrier qui le conçoit doit y réfléchir, mais après le restaurateur, lui, il est en galère. Et moi, je ne suis pas spécialisé dans l'art contemporain, mais ceux qui le sont sont souvent sur des problématiques un peu complexes de conserver des bouts de scotch et compagnie. Donc là, on rentre dans du compliqué et du un peu pervers au niveau de qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on...
Effectivement, il y a la notion de longévité d'une œuvre. Là, ce matin, j'apprenais que des toiles de Pierre Soulages étaient en train de couler. Ouais. Il y a certaines coulures qui apparaissaient, une période particulière, 59-60, ouais. À cause d'une pollution. Et donc, vous êtes aussi très vigilant aussi sur la qualité et des produits que vous utilisez, de leur stabilité aussi, et puis le support avant tout, le papier aussi. Le papier, est-ce que pour vous, d'abord, c'est aussi un parcours du combattant pour le papier ?
Ça dépend des domaines. Pour la conservation, c'est effectivement une petite bataille. La niche est vraiment tout petite pour les papiers qu'on utilise en conservation. Après, au niveau de l'industrie, ça s'est amélioré. On est quand même dans des normes qui sont assez correctes. Mais bon, on peut trouver des beaux papiers roses flash, mais les beaux papiers roses flash, une demi-heure au soleil, ils sont rose pâle, quoi. Donc oui, il faut jouer un petit peu des deux, mais c'est vrai qu'on est attaché à quelqu'un qui fait confiance, qui achète quelque chose, bah, il faut quand même qu'il le conserve un minimum. À l'inverse, qui est un peu paradoxe, parce qu'il peut y avoir des outils de l'art éphémère, comme le street art, comme les bombes par exemple. Les bombes, c'est quasiment éternel comme matériau. La peinture acrylique, c'est du plastique. Donc ça, c'est l'œuvre elle-même, peut-être qu'elle ne va pas durer, mais le matériau qui la compose, il est indestructible. Donc il faut faire la part des choses. Ça peut être aussi un équilibre de pouvoir travailler avec, de la pâte de riz et que ça soit absolument stable, mais que ça puisse dépérir si ça en a besoin.
Vous parlez d'ateliers ouverts au public. Donc vous animez régulièrement des ateliers aux enfants, à des adultes également ?
Oui, donc en fait on a notre atelier dans lequel on travaille qui est en partie ouvert au public, c'est-à-dire que l'endroit dans lequel on travaille effectivement n'est pas accessible au public. Par contre, il y a une partie de l'espace qui est accessible au public avec l'espace de vente, d'exposition. Donc on peut nous voir travailler de loin. Et après, on va soit organiser à la fois soit chez nous, soit en déplacement des ateliers pour différents publics. Donc ça peut être des scolaires, on se déplace en milieu scolaire. Ça peut être du public encore plus jeune, en centre aéré, ou dans des bibliothèques. Si on a besoin de nous, on adapte notre proposition d'atelier en fonction du public. On a eu fait avec des publics handicapés, de différents types de handicap. On peut faire en anglais aussi, on peut on aime bien tout tester et on est ouvert à tout.
Vous avez un soutien de collectivités ou de structures, puisque vous organisez parfois des ateliers avec des scolaires, j'imagine, avec l'éducation nationale par contre, est-ce que vous avez des conventions d'ateliers à leur égard?
Alors, pour au niveau de l'atelier, on est indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, on bénéficie pas de subventions ni rien. Quand on fait des, tout ce qui est intervention en milieu scolaire, selon les âges, c'est pris en charge soit par l'école ou le collège. Maintenant, depuis quelques années, il y a aussi le système du pass culture qui est assez bien fait pour tout ce qui est le lycée et certaines classes du collège. Et après, souvent, ce sont les structures qui nous accueillent qui, elles, bénéficient de subventions pour notre venue.
Quant à l'avenir, je posais la question au photographe Denis. Lui, c'était son inquiétude par rapport à l'intelligence artificielle. On parlait de la photographie aussi. Est-ce que vous présentez une inquiétude ou pas de cet avènement de la création par l'intelligence artificielle, entre guillemets ?
Non, pas du tout. Quand on veut faire de la soupe, on peut utiliser des machines quelconques. Ça ne change pas grand-chose, ça reste de la soupe. Après, non, je ne pense pas que ça ait vraiment une incidence sur ce qu'on est, nous. Sur le marché, peut-être, mais du divertissement, quoi. Mais pour le reste, moi, ça ne me préoccupe pas plus que ça. Non.
Ce qu'on voit dans les ateliers aussi, c'est que les gens aussi ont beaucoup de plaisir à faire par eux-mêmes. Donc c'est aussi l'intelligence de la main et le plaisir de créer quelque chose qui soit plus ou moins réussi, mais de fabriquer. Et il n'y a pas ça avec l'intelligence artificielle. C'est peut-être notre défi intellectuel, mais le plaisir de fabriquer quelque chose avec ses mains, d'avoir de l'encre sur les mains à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est important aussi pour les gens et qui est de plus en plus rare aussi. Donc on propose ça.
Alors, j'ai interviewé quelqu'un il y a quelques semaines qui me parlait qu'il y avait un musée du fanzine en France.
C'est la Fanzinothèque du comptoir moderne à Poitiers. Oui.
Oui. Vous êtes référencé vous-même là-bas ?
On a des bouquins, oui. Bon, ça fait un petit moment que j'en ai pas laissé, mais après, bon, la Fanzinothèque, c'est sûrement une des plus grosses structures en France. Il y en a d'autres ailleurs, il y en a des beaucoup plus petites, plus modestes. On a des livres qui circulent à droite à gauche, mais ça reste modeste par rapport à ce qui peut se faire au Canada, aux États-Unis, où il y a quasiment toutes les universités ont une Fanzinothèque. D'un autre côté, la production du fanzine là-bas est un peu différente. C'est beaucoup plus textuel et plus militant ou littéraire. Donc c'est pas exactement le même registre. Nous, on peut rentrer sur du graphzine. D'ailleurs, la Fanzinothèque, à la base, c'est du strict fanzine, c'est-à-dire du magazine de fans. Donc c'est plutôt associé à la musique. Voilà. Et petit à petit, ils se sont branchés sur les arts graphiques. De fait, mais dans les arts graphiques, on sort parfois du fanzine en rentrant. Est-ce que c'est un livre d'artiste, enfin, que ça soit au niveau du mode de production, ou même du coût de l'objet. Des fois, c'est, bon, les frontières se chevauchent plus ou moins, ça dépend. Et puis, bon, je pense que leur stock n'est pas infini. Mais on avait fait une expo, enfin, participé à une expo là-bas il y a quelques années. J'ai fait un livre là-bas, c'était pour les 10 ans de la Fanzinothèque. C'était sympa, c'est un chouette lieu.
Est-ce que vous cherchez un public, un grand public dans vos éditions, ou alors vous réservez ce type d'expression à un public plus restreint, plus exigeant peut-être ?
Non, alors nous on cherche rien. Moi ça m'ennuierait d'être cloisonné dans un milieu, je sais pas quoi... Beaux-Arts par exemple, ou je sais pas, Underground ou quoi. Donc c'est plutôt agréable de se retrouver à un endroit avec nos trucs et que les gens sont perdus, mais bon, ils adhèrent et voilà. Et au final, le public, quelle que soit la couleur du public, ça change pas grand-chose au fait de ce qu'on diffuse ou pas. Donc les gens qui sont dans les Beaux-Arts et compagnie, ils connaissent, hein, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... On ne va pas leur apprendre que forcément quelque chose. Que le grand public, du coup, il découvre parfois des choses et ça peut le diriger vers d'autres, petit à petit et progressivement. Donc ça peut être intéressant. Mais pas de... On s'applique un peu quand même à ne pas produire des objets luxueux. Pour ne pas justement rester dans une niche, marché de l'art, même très très niche. Où là, on est vraiment sur de l'élite, on va dire...
Ce qui peut-être vous seriez amené à le faire quand même, ce type d'ouvrage de luxe, le livre d'art même tout simplement. Est-ce que ça vous est arrivé de travailler sur un type de projet comme celui-ci?
C'est le type de projet sur lequel on travaille après, plutôt au niveau de l'atelier de reliure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du cartonnage, de la reliure, en partenariat avec un éditeur de livres d'artistes. Donc, ce qui permet aussi de travailler avec différents niveaux de finition ou pour des publics différents et de se faire plaisir. Parce qu'on aime tout. Mais sur nos productions personnelles, non, on va rester sur quelque chose de plus léger. On essaye de faire en sorte que ça soit abordable, avec des prix abordables pour tout le monde. Et on fait des tirages maximum à 150 exemplaires, ce qui implique qu'il n'y a forcément pas grand monde qui va pouvoir avoir nos livres. On n'essaye pas de toucher un marché international, enfin même si on a des livres à l'international, mais voilà, on a un petit marché qui est assez limité.
Non, je voulais juste ajouter, parce que parfois, selon les techniques qu'on va employer, si on fait de la litho par exemple sur du papier recyclé, des choses comme ça, on va forcément produire un objet qui est plus précieux de fait, parce qu'il y en a moins, hein. Là on dit 100, mais ça peut être 20 copies. Moi, il m'arrive de faire des livres uniques. Mais on n'est pas forcément dans la recherche de diffusion à ce moment-là. On va se concentrer sur le reste du travail pour rester abordable. Mais rechercher un milieu de luxe comme ça, c'est pas notre credo. Non.
Pour vous découvrir, donc vous avez un site internet, librairie avec deux i à la fin, .org. Ça, c'est un peu le site internet de votre du ça, garage
c'est
L.
C'est pour le travail, ça, surtout. C'est tout ce qui concerne la reliure, la conservation, la restauration. Voilà, c'est pour ce. C'est pour l'aspect conservation, restauration plutôt.
Sinon, on a aussi une page Facebook du Garage L.
Il y a Etsy.
On
a une page Etsy pour vendre des bouquins, mais c'est pas super fabuleux. Disons qu'Internet, c'est cher, quoi. Donc on est obligé de vendre plus cher. Enfin, c'est pas très. Mais disons que ça fait un contact, ça fait on peut au moins voir. Et puis...
Afin de répondre aussi à des sollicitations de créateurs, hein, puisque vous les secondez, est-ce que vous nourrissez vous-même des techniques qu'on peut trouver à travers la planète, que ce soit en graphisme ou même au niveau des matériaux qui sont proposés? Là, je pensais, j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'était une fabrique de papier hyper fin, avec des plantes particulières qui sont macérées. Ce sont japonais, des grandes oui. Herbes. C'est japonais, ouais.
C'est cher, donc on les utilise principalement pour tout ce qui va être les techniques de restauration. Parce que c'est des papiers qui sont neutres, qui au niveau chimique et tout ont quand même certaines caractéristiques particulières. Mais leur prix va nous restreindre à une utilisation vraiment dans le cadre de la restauration de documents un peu plus précieux. Après, on essaye, oui, toujours de se tenir au courant un peu de ce qui se fait. Voilà, on fait du transfert photo. En fait, on essaye de pratiquer dans la limite de ce qui est possible dans une vie au niveau pratique, mais on essaye de toucher à tout ce qui touche au livre, aux arts graphiques et qui se fait à la main. Si on peut éviter d'avoir un ordinateur qui vient se mettre au milieu, on va le faire. Et après, mais tout, on ne fait pas forcément de différence entre les techniques qui viennent juste d'être mises au point et les techniques plus anciennes. On part du principe que Gutenberg, quand il a mis au point la technique de l'impression avec les caractères au plomb, à l'époque, c'était une sorte de grand novateur. Il a eu des reproches, on lui a fait des reproches sur sa technique, c'était pas forcément bienvenu. Et maintenant, c'est une technique qui paraît un peu désuète. Mais on peut aussi très bien faire de la gravure sur du CD en plastique qu'on va imprimer dans une machine à fabriquer des pâtes. On peut faire des tampons avec des pommes de terre. Où on peut utiliser, on avait fait des ateliers aussi, on avait utilisé les pâtes à potage en forme d'alphabet qu'on avait détournées pour imprimer des textes avec ces lettres-là. Donc on essaye, autant que notre temps le permet, de s'ouvrir à tout ce qui est possible.
Vous seriez plutôt dans le circuit court, donc de travailler avec ce qui est le plus proche de vous au niveau des techniques, des matériaux.
Oui, oui, c'est un circuit court. Oui, on essaye de... Ça arrive qu'il y a des artistes qu'on invite, nous présentent quelque chose qu'on ne connaisse pas. Mais eux, par exemple, ils l'auront vu à l'école, comme ça, entre guillemets. Et puis bah, nous, à l'atelier, on n'est pas à l'école. Alors on n'a pas forcément tout à disposition. Alors comment on va faire pour le faire, ça? On va essayer de réfléchir à comment c'est fait, qu'est-ce qui caractérise cette technique en fait, quels sont les ingrédients qui la caractérisent, comment on peut les remplacer, et du coup ne pas forcément se figer sur une méthode vraiment à la lettre, ce qui d'ailleurs peut mener à des techniques qui sont labellisées après. C'est des gens qui disent « moi j'ai inventé ça, alors si vous faites ça comme moi, vous allez me payer $30 par semaine ». Ben voilà, ce genre de choses-là, c'est pas trop notre tasse de thé. Et donc, je pense pas qu'on utilise une technique similaire en continu, en fait. On est tout le temps en train de changer.
Vous-même êtes créateur, auteur?
Oui. Enfin, moi, je fais beaucoup de dessins, de la gravure et de la peinture. Et je le fais pour moi, et puis aussi pour... des publications ou des disques pour de la musique, ou quand on me demande une expo par exemple, ça peut arriver. Donc oui, moi je fais beaucoup de création, Vanessa un petit peu moins, mais c'est différent, c'est dans la reliure, ça s'exprime différemment, mais je crois qu'on fait beaucoup, ouais, on produit pas mal, mais un peu en justement en, enfin, je vois, moi, des artistes avec lesquels on travaille, pour devenir sur les gens renommés, ils ont un style. Donc, ils travaillent leur style, et ils le définissent, ils l'affinent, etc. Donc, on les reconnaît à leur style.
Avec des techniques particulières.
Voilà, les outils, le machin. Moi, je change pas de stylo parce que blabla. C'est vrai que moi, à l'inverse, j'ai tendance à aller un peu dans tous les sens. Je vais faire un peu de pop-up à un moment, puis à un moment, je vais faire la gravure, et puis j'ai jamais un point d'attache. Et même en graphique, je travaille au stylo, à la plume, au pinceau, et c'est jamais... je pense pas avoir un style...
Vous pratiquez la typographie aussi?
Oui. Moi, j'ai appris la typographie d'abord à l'école, c'était une petite partie de ma formation, et puis après quand on est arrivé à Fort-Calquier, il y avait dans le sous-sol de notre local un atelier de typographie avec le typographe et tous ses conseils, tout son savoir. Donc c'est vrai qu'on a continué à faire de la typographie, à faire de la lithographie aussi. On a une machine aussi, une pile hollandaise avec laquelle on peut faire de la pâte à papier. Donc on fabrique aussi, selon les occasions, notre propre papier sur lequel on imprime. Donc c'est vrai que c'est vraiment du circuit court, puisque tout est fait au même point GPS. Il y a juste le niveau qui change. Donc oui, c'est un peu toutes les techniques. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on est installé sous forme associative et on a monté une bibliothèque technique autour de tout, les métiers du livre, les techniques qu'on met à disposition des adhérents de l'association. On commence à avoir quand même pas mal de livres, trop par rapport à l'espace. Et donc voilà, sur toutes les techniques anciennes, les techniques plus contemporaines, que ce soit les matières premières, les minéraux, la fabrication des couleurs, la fabrication des papiers, le bois, ou des choses qu'on trouve, on pense assez pointues. Et donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui cherchent des informations à ce sujet-là, qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer.
Fort-Calquier, pour vous, c'est une ville idyllique? Non, inspirante.
Inspirante, ouais, plus ou moins. C'était plus inspirant il y a quelques années quand on est arrivé. Petit à petit, ça se gentrifie, on va dire, en quelque sorte. Enfin, disons que le public a changé. C'est plutôt un public urbain, en fait, et ça s'est aggravé. Aggravé, c'est péjoratif, mais disons qu'il y a beaucoup de public urbain qui est venu à Fort-Calquier et dans les environs suite au Covid ou à la Covid. Du coup, voilà, des gens qui se recyclent, qui changent de vie, mais qui sont de bonne volonté, mais qui, du coup, n'ont pas forcément les mêmes fonctionnements.
T'as pas dit de... T'es pas déprimé.
Et puis, le fait de mettre un pied dans, bah, justement, ce marché de l'art, le marché du luxe, bah, ça met le pied et tout le reste. Et bon, voilà, il y a un circuit qui remplace un autre, en fait. Il n'y a pas de partage. Donc, moi, je trouve que Fort-Calquier, ça a un peu changé.
Eh bien, Vanessa Krolikowski et Romuald Souris, je vous remercie tous deux de nous avoir donné un peu de temps à RDWA pour nous parler donc du Garage L. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à vous, merci RDWA.
Merci, à bientôt.